Nous sommes sur Allegri FM 93.1. Nous sommes mardi matin et dans la vie est un roman. Ce matin, je suis avec Karine Mirmont qui a publié un livre qui s'intitule Grâce l'intrépide chez Gallimard et avec Anne Theuria qui a tourné un long métrage qui va passer au Saint-André-des-Arts, c'est le Saint-André-des-Arts à Saint-Michel, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui va passer dans un cinéma parisien et qui va nous en parler. Comment s'appelle ton film, Anne?
Alors, mon film s'appelle Malévose. Il a été tourné en Suisse. Ma production est suisse et moi-même, même si je vis à Paris depuis longtemps, enfin, je vis entre les deux pays, mon producteur reste suisse. Je suis la réalisatrice du film, mais le terme que je préférerais serait le terme cinéaste, dans la mesure où ce qui m'implique et ce qui m'inspire d'entrée, c'est une démarche d'auteur, c'est-à-dire que je n'ai jamais adapté quoi que ce soit. Donc la genèse, d'où vient l'envie, le besoin tout d'un coup de se mettre sur tel ou tel objet, ça c'est la priorité pour moi et découle de là le fait de réaliser. Je travaille avec le même producteur depuis très longtemps et c'est aussi un artiste, en tout cas quelqu'un qui sait accoucher un cinéaste, et ça c'est très précieux, Xavier Grin, donc PS Productions en Suisse. Là, le film, donc, il passera à 13h au Saint-André-des-Arts dans un cycle qui s'appelle Découverte, c'est-à-dire que c'est vraiment dévolu au film d'auteur et au film qui tente une recherche formelle également. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que la directrice, Madame Diamantis, m'a dit lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait programmer le film. Elle m'a dit bon, que le film l'avait intriguée par la forme expérimentale, et avec une sorte de naïveté, j'ai cru qu'elle aimait le film, et je lui ai dit, puisque vous aimez mon film, et là j'ai vu son doigt tout de suite me pointer en me disant, mais je n'ai pas dit que j'aimais votre film n'a pas à être aimé ou pas, il est intéressant par sa forme. Donc ça m'a libérée tout à coup de me dire, mais oui, au fond, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans le fait d'aimer ou pas aimer, on est dans une proposition. Et là, il s'agissait de... Tout est parti d'une offre qu'on m'a faite en Suisse, dans un hôpital psychiatrique très important, et comme de nos jours, il n'y a plus d'aliénés, mais que... Donc il y a des bâtiments vides, et qui ne peuvent pas être réaffectés. Parce qu'ils ne sont plus aux normes, donc il y a un centre culturel dans cet hôpital psychiatrique, et c'est le directeur qui m'a offert, donné une carte blanche pour faire ce que je voulais. Et tout à coup m'est venu à l'esprit que nous avions écrit, à partir de 3 nouvelles dont je suis l'auteur, une comédie musicale, et qu'elle traitait notamment, sur le mode comédie musicale, d'une relation thérapeutique entre un médecin et sa patiente qui évidemment tombe amoureuse de lui, enfin, etc. Et tout à coup, j'ai vu une conjonction, une relation entre ce qui se passait là, thématiquement, dans cette comédie musicale, et ce qui allait se passer de l'autre côté de l'hôpital psychiatrique, à savoir, j'imaginais, des psychothérapies. Donc, je me suis dite, plutôt que de rester dans ce sublime endroit avec une scène, avec tous les moyens possibles et imaginables pour faire une production artistique, je me suis dit, nous allons traverser le Rubicon, si je puis dire. Et m'est venue l'idée, voilà, de le mot, je voulais appeler le film comme ça, mais mon producteur est devenu rouge et ses cheveux se sont dressés sur la tête, déterritorialisation. Le mot m'a été donné, si je puis dire, par la lecture de Deleuze. Donc, changement de territoire. Et le territoire n'a rien à voir avec la terre, n'est-ce pas? On peut avoir le territoire de la médecine, le territoire de la folie, sans changer de lieu. Or, l'hôpital psychiatrique, d'après ce que disait le directeur, c'est le lieu où la folie a le droit d'être. Donc, nous avons essayé de faire une sorte de folie là-bas. Et c'est une façon d'interroger le réel. Je me reconnaît dans le travail d'Alain Cavalier, c'est-à-dire abolir la frontière entre documentaire et fiction, et interroger justement le réel. Donc là, ce qui est tenté, c'est de regarder la notion de rôle, la notion de jeu, rôle dans la vie, rôle au théâtre ou au cinéma, qu'est-ce que jouer, et voilà un peu d'entrée ce qui est traité. Chacun a sa part au fond de déterritorialisation en soi, et les personnages, qu'ils soient acteurs ou qu'ils soient absolument pas acteurs, sont mélangés, et c'est ça qu'on va essayer de montrer dans chaque personnage, sa part de déterritorialisation. Il y a par exemple la lingère qui se déterritorialise en ayant dans son endroit où elle lave le linge sale, dit-elle, ça sent mauvais, le calendrier des camionneurs, vous savez, le calendrier
où ils sont tenus.
Voilà, où ils sont, et ils sont magnifiques d'ailleurs, et voilà, c'est sa part de rêve. Ce que j'ai eu envie d'interroger aussi, c'est la notion même pour nous, acteurs, enfin c'est ma formation d'entrée, pourquoi est-ce qu'un personnage devrait être dévolu seulement à quelqu'un? Vous voyez, je suis Juliette, et j'ai la coiffure de Juliette, la robe de Juliette, et je vais dire le rôle de Juliette. Pourquoi ne pas le déconstruire et l'attribuer, eh ben, je ne sais pas, l'éventailler sur 10 personnes? Un aura sa voix, l'autre aura une partie de sa personnalité, ce qu'on fait déjà plusieurs cinéastes, une autre partie de la personnalité, etc. Donc c'est une tentative dans cet esprit-là.
Et donc, je veux dire aussi, parce que tu as dit film expérimental, là, l'impression qu'on a, c'est une impression de grande sérénité. Mais donc, ça veut dire que cette lingère, elle joue un rôle, que ce n'est pas une vraie lingère?
Si, elle, c'est une vraie lingère.
Ouais. Mais il y a encore donc des activités dans cet hôpital.
Il y a donc surtout des malades qu'on n'a pas le droit de filmer parce qu'il faut leur consentement.
Donc, tu vas dans un hôpital et tu as un protocole qui consiste à amener un piano, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire, j'ai pensé à Moussorski dans les tableaux d'une exposition qui fait voyager le piano entre chaque tableau. L'idée, c'est vraiment de mélanger les médecins et nous, et qu'on ne sache plus qui est le médecin acteur et le médecin réel. Et pour ma part, le médecin que vous voyez jouer, il me fait encore plus rêver, enfin, il me fait autant rêver que l'acteur qui joue le médecin. Et qui est le plus juste? Auquel croit-on le plus, vous voyez, c'est ça toute la question du film. Donc il n'y a l'héroïne n'existe pas, on a pris ce qu'on a trouvé. Il faut dire qu'on a fait ça avec très peu d'argent, la Suisse étant riche mais ne faisant pas un cinéma riche. C'est aussi ça le challenge, qu'est-ce qu'on peut faire avec rien?
Alors moi j'ai vu le film et ce qui m'a frappé le plus, c'est une impression de sérénité.
Mais je suis ravie.
Et une espèce de respiration là-dedans. Je me dis, tiens, c'est comme une performance, en fait. Il y a un protocole,
oui,
on
voilà.
Amène un piano, on fait chanter un peu tout le monde.
Oui, oui.
Et ça se passe bien, et ça a demandé une très grande patience, c'est très serein.
Mais c'est formidable.
Tout est très aérien, tout est bien. Chaque élément a sa propre... C'est un film animiste, un petit peu, comme ça. On voit les murs, les tables, et ça n'a rien d'hystérique. C'est peut-être une association avec la folie. C'est un très bon souffle.
Bon, il faut dire qu'il y a 4 jours de tournage à l'arrache, comme on peut, et 1 an de montage avec un adorable monteur qui sort de l'école de cinéma suisse, un russe, et j'ai vraiment adoré cet échange. Donc c'est un film extrêmement construit qui a demandé un énorme travail de montage. Mais nous cherchions en effet... Ça me plaît beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire la légèreté, parce que c'était difficile à faire, évidemment.
C'est un tour de force.
Un tour de force. Et ce qui m'amuse beaucoup dans ce que vous dites également, c'est que le film est sorti en Suisse romande, et je ne suis pas sûre qu'il était léger pour les gens.
Mais le mot, le malévos, pour eux, évoque quelque chose.
C'est ça, trop. Bah, vous comprenez,
oui,
trop.
Pas pour moi, mais pour eux,
voilà,
oui.
Et bien, tant mieux. J'espère qu'à Paris, ça n'évoque rien pour les gens.
Ah, ça n'évoque absolument
oui, mais
rien.
Voilà, c'était le souhait.
Ça a l'air, dans la nature, un endroit oui, très, très agréable.
C'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique.
Ça ne ressemble pas à Sainte-Anne, par exemple, qui est peut-être
non, c'est un endroit magnifique. Malévose veut dire mauvaise eau. Et j'ai cru comprendre que l'eau calme les fous. Enfin, je ne sais pas. Mais en effet, il n'y a pas de... Moi, je l'aurais appelé des territorialisations, mais mon producteur même n'arrivait pas à prononcer cela. Et je pense que c'était un peu dissuasif.
Et donc, tu disais mardi à 13h,
c'est... Non, ça commence demain. Hein, ça commence
à partir
demain.
De demain.
Voilà, 14 projections à 13h.
Tous les jours, pendant 14 jours, tous les mardis à 13h.
Voilà, il faut... Non, tous les jours... Pendant,
ah, pardon,
voilà, oui, tous les jours, mais c'est assez ouais, complexe comme programmation.
C'est aujourd'hui mardi.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à partir de demain, au moins pendant 11 projections ou 12, sauf le mardi 5, sinon c'est tous les jours. Et ensuite, il y a encore deux mardis dans le mois de février. Et voilà, donc tout le mois, mais c'est surtout les deux premières semaines.
Donc, Anteria, Malévose.
Malévose, oui.
Saint-André-des-Arts.
Saint-André-des-Arts, cycle découverte.
D'accord, merci bien. On va faire une petite pause musicale, Gilles, s'il te plaît.
Qu'on allait s'entrechoquer. Je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens.
C'était Flavien Berger, m'a dit la nuit. l'album Contretemps que le producteur m'a envoyé et que je trouve très bon. On écoutera peut-être encore un autre morceau avant la fin de l'émission. Et maintenant, nous allons parler de Grâce, l'intrépide Karine Miremont. Je voudrais dire en préalable, bon, alors ce roman parle d'une dame nigériane, donc qui vient du Nigeria et qui se prostitue au bois de Vincennes. Mais je dois dire que pour moi, ce livre n'est ni un témoignage, ni un document tout d'abord. C'est un texte littéraire et un très bon texte écrit avec maestria. Je voulais attirer l'attention là-dessus. Il ne s'agit pas de quelque chose qui va chercher à tirer les larmes ou qui aurait une vocation comme ça, un appel au secours, je ne sais pas quoi. Il s'agit d'un texte très écrit et c'est ce qui fait sa force. Et ce livre est plus que ce qu'il pourrait donner à voir de lui-même, j'ai écrit, si on se contente de le résumer. Et donc voilà, donc je vais passer la parole à Catherine Miremont qui va nous parler de Grâce l'intrépide. Bonjour.
Bonjour. Oula.
Alors que raconte Grâce l'intrépide ?
Grâce l'intrépide ou Grace l'intrépide parce que souvent, Grace, oui, souvent elles ont des... Non mais moi j'aime bien dire Grâce l'intrépide, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du texte assez vite il est dit que Grâce prononce Grace parce que les Nigérianes sont de langue anglophone en plus de la langue chacune de leur ethnie et donc effectivement entre elles ou quand on parle avec elles on prononce leur prénom à l'anglaise, donc effectivement c'est Grace aussi. Je sais quelle est la question.
Quel est ce livre? Comment est-ce que vous définissez globalement, comment vous présentez ce livre à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler?
C'est pas mon fort de résumer et de faire le pitch, comme on dit, mais vous en avez très bien parlé parce que pour moi, c'est ce que vous avez dit du fait que c'était... Si je l'ai écrit, d'abord, c'est que le sujet m'est tombé dessus, comme je le raconte au début. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, je rencontre une jeune femme que je ne connais absolument pas. On se parle pendant une heure. Elle m'explique qu'elle a passé 3 ans au bois de Vincennes avec des Nigérianes. Je tombe des nues parce que je ne sais pas qu'il y a des prostituées nigérianes au bois de Vincennes. Je sais évidemment qu'il y a des prostituées. C'est mon quartier. J'habite pas très loin depuis longtemps. Donc, je connais ce coin-là. Et je suis d'autant plus sidérée de le méconnaître à ce point-là. C'est-à-dire de ne pas savoir ce dont elle me parle pendant une heure et qui assez rapidement, enfin, non seulement me touche, voilà, mais me sidère un peu parce qu'elle me parle assez vite du fait qu'il y en a toujours plus des Nigérianes, que c'est quelque chose qui est très organisé, que lorsqu'elles partent du Nigeria, il y a une cérémonie vaudou. Enfin, assez vite, ça devient à la fois complètement le réel, dont on parlait tout à l'heure, et l'envie de... Voilà, le sujet me tombe dessus parce que je suis touchée, et puis... Quand je la quitte, finalement, dans les semaines qui suivent, je commence à me documenter simplement pour savoir de quoi il s'agit, parce que tellement mon ignorance me sidère. Et plus je me documente, et plus le réel dépasse la fiction, à la fois dans sa réalité et dans la ça me donne envie d'écrire, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si... Moi, j'ai pas fait un document, donc je vous rejoins totalement. Et je suis très contente de ce que vous avez dit au début, parce que vraiment, c'est ce que vous avez dit et me semble juste sur le fait que ce n'est pas un document, en effet. C'est un récit qui mêle ce dont vous parliez dans la première partie de l'émission. Très bien. Le fait de mélanger à un moment donné ce qu'apporte le réel et ce que va apporter la fiction, mais alors la fiction au sens large, c'est-à-dire la fiction pour moi c'est très grand en termes littéraires en tout cas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on compose, on se sert des mots, c'est aussi simple que ça, c'est un matériau très simple, les mots, et qui donne beaucoup de liberté parce qu'il n'y a pas de contraintes techniques comme l'image ou parfois le son, et c'est une liberté à mon sens assez formidable et il faut s'en servir. Et donc la fiction pour moi c'est très vaste. C'est ce que disait Lançon il y a quelques mois quand on l'a pas sélectionné au moment du Goncourt parce qu'il n'avait pas écrit un roman entre guillemets. Ce livre Grâce l'intrépide est intitulé roman parce que c'est une fiction, mais dedans il y a beaucoup de réel en effet, mais il y a beaucoup de fiction aussi, parce que pour moi la fiction c'est le fait d'écrire et de composer et de mettre en forme, voilà, créer une forme. Voilà, pour moi c'est de la fiction sachant que le réel est parfois de la fiction lui-même et que c'est très compliqué d'être sûr d'approcher le réel. Personne n'est sûr de raconter le réel. Personne n'est sûr de l'approcher. Donc tout ça est complexe.
Sur ce problème de la fiction, on est dans un syndrome français et dans le domaine anglo-saxon, on fait aucune différence selon les approches. Et c'est vraiment chiant. Gallimard aussi avec son truc du premier roman qui est un mensonge. Ensuite avec roman qui ne veut rien dire. Mais je suis bien sûr d'accord sur la mise en forme et c'est bien là que ça se joue. Ce livre pourrait être un tas de choses, et donc c'est la mise en forme qui fait le livre. On est d'accord. L'appeler fiction, enfin bon, je sais pas, j'ai reçu Laurence Cosset, par exemple, qui a fait un roman sur la Grande Arche. C'est dommage qu'elle l'ait appelée fiction, parce qu'elle parle de tout le personnel qu'il y avait sous Mitterrand. Elle en parle bien. Je vois pas l'intérêt, et elle s'est totalement plantée sur le Danemark. Parce qu'après j'étais à la maison du Danemark et un ami du type qui a construit la Grande Arche, qui était architecte, donc le directeur de la maison du Danemark aux Champs-Élysées en fait de l'époque, a détruit totalement la partie danoise du roman du pseudo-roman de Laurence Cosset. Et c'est un problème de documentation parce qu'elle est, alors je vais donner un exemple de bêtise qu'elle dit. Elle dit il n'y a pas de dialecte au Danemark. Après, je me suis mis quatre claques dans la figure parce que j'avais lu le livre et j'avais pas remarqué que c'était stupide. Et j'ai dû attendre que le type me le dise. Donc, roman, ça veut rien dire. Mais ça n'a pas d'importance. Laissons tomber parce que le livre vaut mieux que ça. Et puis, on peut appeler ça une mise en forme. Mais quand j'ai annoncé sur ma page Facebook que vous alliez venir, quelqu'un m'a mis, par exemple, votre livre précédent en image pour me dire que c'était pas votre premier roman mais votre second. Donc il y a marqué premier roman dessus.
C'est mon second livre, ouais. En effet.
Et donc
parce que le premier,
je vais essayer de faire image pour vous aider sur la comment je vois cette mise en forme. Et peut-être que la métaphore qui me conviendrait le mieux, c'est l'eau. Alors on est dans une eau très grondante au début, quelque chose de vraiment tempétueux, et qui est la question des réfugiés, la question du trajet, de comment ces gens qui habitent dans un certain endroit en Afrique de l'Ouest vont arriver ici, et c'est une eau qui va s'évaporer en route, qui va disparaître, il va y avoir évidemment, puisqu'il y a tout le Sahel, il va y avoir un passage très difficile, après il y a la Méditerranée, et donc on va arriver jusqu'à une eau très claire en fait, et un phénomène de rédemption à la fin, donc on pourrait faire du Lao Tzu, on pourrait essayer de chercher ce qui se passe, mais c'est cette fluidité en fait, hein, puisqu'on parle de mise en forme, ça travaille effectivement sur la fluidité. Et donc on a une dramatisation majeure, et il n'y a pas... Alors là, je vais prendre un exemple, deux lignes, c'est à la page 71. D'où vient cette joie résistante, cette gaieté qu'elles convoquent presque toutes ou presque toujours lorsqu'on les écoute et qu'elles ont suffisamment confiance pour commencer à parler. Donc là, on est dans quelque chose qui est totalement dramatique de part en part. Il y a des morts, il y a des mœurs qui sont vraiment primaires, qui sont inconcevables. On a des gens qui vivent dans des chambres qui peuvent même pas se laver. Ah, pareil, qui peuvent pas se laver, qui peuvent pas se soigner. On est dans une dimension démente et il y a de la joie.
Hein? C'est vrai, ça.
C'est l'écriture, en fait, qui amène la joie, à mon avis. C'est le fait de le dire, mais...
Alors, il y a deux mouvements. Quand ce sujet m'a pris, parce que c'est un peu ça, quand même, il m'est un peu tombé dessus, et j'ai pas pu m'empêcher de le conserver en moi, et puis il s'épanouissait, en fait, au fur et à mesure de la documentation, sachant que la documentation, c'est tous azimuts, c'est aller sur le terrain, lire de la littérature, lire des documentaires, regarder des reportages, enfin, bon, voilà. Discuter avec les associations qui s'occupent de ces femmes, enfin tout ça, et puis finir par en rencontrer un certain nombre. Ce qui était frappant assez vite, c'est de sentir qu'il y avait c'est vrai ça, il y a une forme de joie qui est évidemment une joie pour combattre ce qui n'est pas du tout joyeux. Ça, c'est un truc assez humain, je pense, quand il y a des situations très très dures. Il y a ça, et puis il y a une dimension, peut-être, ça c'est une hypothèse, culturelle d'un rapport à la vie, d'un rapport à la mort, d'un rapport général comme ça à l'existence, qui est différent. Enfin, moi je sais que on peut le constater quand on voyage dans des pays où c'est plus difficile qu'en France, il y a des expressions de joie dans ces situations-là. Et ça c'était la réalité, et ça me revenait sans arrêt, et ça a accompagné la mise en forme dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, assez vite, le titre était là, c'était Grâce l'intrépide, il y avait une sorte de souffle et d'élan que je voulais conserver, et si je n'avais pas pu le conserver, ou en tout cas tenter de le conserver tout le long de l'écriture, je n'aurais pas écrit ce livre. C'est pour ça que ça n'est pas un document. Et quand vous parlez de fluidité, c'est quelque chose de très intéressant comme mot, parce que la tentative, en tout cas, c'est de garder cet élan, et cet élan, il vient de leur joie réelle, qu'elles parviennent d'une forme de dignité, quoi qu'il arrive, qui est très impressionnante et qui est très belle. Il y avait une forme de beauté. Il y a une forme de beauté là-dedans. Donc, et qu'il faut respecter et qu'il faut suivre comme ça, comme un mouvement. Voilà. Si. Et j'ai essayé de garder ça comme une ligne tendue.
Pardon. Je suis d'accord, et on peut avancer en fait, parce que en partant du principe qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on va chercher ce que vous avez fait avec votre aide. Et je pense que c'est le récit d'une résilience. Et que je ne suis pas d'accord du tout sur le côté culturel de l'Afrique de l'Ouest ou je sais pas quoi. Il y a qu'à penser à un enfant battu chez nous. Je pense que le récit, plutôt à notre ami Cyrulnik, là, avec sa résilience, je pense qu'effectivement, ce qui tient le livre, c'est cette notion de résilience, et que c'est cette résilience qui est potentielle. Et on le sait pas quand on lit le livre que le personnage va s'en sortir. Et donc c'est cette résilience qui rend possible des personnages, par exemple, comme les gens qui vont assister les prostituées. Et c'est toujours très difficile de donner cette dimension, je sais pas, la Croix-Rouge, par exemple, est créée par un mec qui joue beaucoup, Dunant, qui est une espèce de petit escroc, en fait. Et donc il y a plein de dimensions comme ça, tout ça, c'est difficile. Mais quand on est sur le terrain, quand on est dans la réalité, c'est très facile, c'est des questions pratiques. Combien de bouteilles d'eau, comment on fait, où est-ce qu'on met les gens, est-ce qu'il faut faire de la discipline, est-ce qu'il faut les coucher à telle heure, pas telle heure, est-ce qu'on sépare les gens, enfin c'est plus que des problèmes pratiques. Et donc là, sur l'association, par exemple, j'aimais beaucoup l'idée de Paul qui note tout sur son téléphone portable pour arriver à resituer les gens, pour créer un climat de confiance, etc. Le récit se construit. Donc on va voir des gens pour les aider, les résidents de Paris qui êtes les gens qui viennent de l'extérieur, qui vont se prostituer, et on va apprendre à les connaître et on va essayer d'établir une relation de confiance.
Très important.
Et donc moi j'ai fait par exemple, j'ai encadré un stage d'insertion sociale et professionnelle dans les Yvelines en 1982, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, et le phénomène était le même, c'est pour ça que je récuse totalement l'idée d'une appartenance bon, le folklore existe, mais c'est plus profond comme mécanisme.
Vrai. C'est vrai, c'est juste.
Il y a des particularités, mais c'est plus profond.
Il y a une forme d'universel, oui, effectivement, oui. Vous avez raison. Ouais.
Et ce qui rend possible le récit comme vous l'avez écrit, c'est justement cette tonicité perpétuelle. C'est ça qui fait qu'on n'est pas dans le pathos, non?
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans le pathos? Il y a plusieurs...
Peut-être qu'on y est, en fait.
D'une certaine façon, on y est au sens où... Moi, je parlerais plus d'empathie que de pathos. On est plus avec... Moi, j'ai cherché à ce qu'on soit... Moi, en l'écrivant, et puis bon, je suis mon premier lecteur, même si on n'est évidemment pas objectif, mais j'avais... Au début, je le dis, il avait fallu s'approcher d'elle. Bon, voilà, on s'approche d'elle, on est avec elle, peut-être, enfin j'espère, le plus près possible. Mais pour être près d'un personnage, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Enfin, je veux dire, il y a des fils qui se tissent comme ça au fur et à mesure du récit, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et les silences, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a entre les lignes, Pour moi, quelqu'un comme Maurice Blanchot, par rapport à l'écriture, est quelqu'un de très important. Et il a parlé du silence et de l'importance des silences. Évidemment, Marguerite Duras en a parlé aussi. Et quand on écrit, c'est vrai. C'est-à-dire, à partir du moment où on est en train d'écrire et où on est dans la certitude qu'on est à côté de ce personnage, qu'on est suffisamment empli de la réalité de ce qui doit se passer, de ce qui se passe, eh bien, on ne va pas aller... On va garder une forme de tension, une forme de fluidité, mais on ne va pas aller dans les... Parce que sinon, on se met à raconter toujours de la même manière. Voilà. La question, c'est la forme, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'il est éventuellement intéressant de raconter cette histoire et de s'approcher de cette réalité sans que ce soit toujours la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire ce que je vois à la télévision, ou une forme de roman que je connais déjà et qui m'ennuie parce que je fais une musique parce que pour moi c'est une forme de musique. C'est comme quand je regarde le journal télévisé, que je ne regarde pas d'ailleurs parce que c'est toujours la même musique, en fait, formellement. C'est un peu comme quand j'étais enfant et que j'apprenais les tables de multiplication, il y avait une musique comme ça, Bon, ben, pour moi, il y a une dimension sonore aussi et de rythme et de fluidité. C'est ce que je tente aussi de mais sans non plus me dire que je suis là, enfin, sans faire pleurer dans les chaumières facilement, c'est insupportable. Ça.
Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que ce qui rend ce livre très, ce qui est écrit dans ce livre, c'est ce qui n'y figure pas. Ça, je suis entièrement d'accord qu'effectivement, ce que vous appelez le silence, mais que je dirais surtout, c'est la retenue, la pudeur. Hein, c'est donc, il faut s'entendre. Hein. Oui. Après, on s'en fout un peu de Duras et Blanchot, mais...
C'est vrai, c'est vrai.
Et l'autre truc, c'est... Alors, l'empathie, j'aime pas du tout, moi, ce concept, parce que je trouve que ça fait très bourgeois. C'est un surplus, on se penche sur les gens. Alors,
je le vois pas comme ça.
C'est à l'inverse, c'est justement... Je suis très méfiant par rapport à ça.
Parce que vous méfiez de la condescendance.
J'y vois, un surplus.
Ok.
Et je pense qu'il faut vider ses poches avant de faire un truc comme ça. Faut vraiment se mettre sur un plan d'égalité. Et j'ai trouvé, il y a un passage, et ça s'agite beaucoup sur Facebook, je le vois circuler. Il y a ces gilets jaunes et les gens qui viennent de pays, soit du Sahel, soit de l'Afrique de l'Ouest, ont tendance à protester comme quoi les Français seraient des privilégiés. Et par exemple, là, on peut ouvrir un débat. Parce que si privilège il y a, et ça se discute aussi déjà cette notion, c'est parce que cette tension est maintenue. Et ce qu'on est en train, ces gilets jaunes, tout réac et tout con qu'ils soient, ils bossent pour eux. Ils bossent pour eux parce que c'est cette tension qui fait le monde. Et leur récrimination, comme quoi ça serait pire au Nigeria et que les gens seraient plus méchants au Nigeria qu'en France et qu'ici on vivrait dans le confort, etc., c'est pas intéressant. C'est juste, on s'en fout, on va pas s'enfoncer là-dedans, mais c'est pour expliquer pourquoi on peut sortir très, il faut sortir très vite de l'empathie pour être dans une certaine égalité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut dire à ces gens, tu me fais chier. Alors, ça, c'est pas bien ce que tu viens de faire, ce que tu viens de me dire, c'est pas bien. Ça ne figure pas dans votre livre, mais on sent cette tenue constante qui est là. Et je dirais pas que ce livre est empathique. Empathique, pour moi, ça veut dire paternaliste. En fait.
Alors, pas du tout. Alors, bon, moi, je le vois pas comme ça. Empathique, pour moi, c'est un de ses sens littéraux. C'est me mettre à la place d'eux. Voilà. Donc, et se mettre à la place d'eux, c'est toi ou moi, finalement, on est pareil. Au début du texte, à un moment, je me souviens, écrire un corps comme moi, comme vous, vivant, debout. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a une forme. Il y a un moment où, justement, ça permet d'évacuer certains débats. Ça permet de se mettre sur un plan où on est à l'os, quoi. Voilà.
Bon, mais vous lirez Grèce l'intrépide et vous vous demanderez cette question de l'empathie. Mais je peux donner un bon exemple. Je pense que c'est un très bon débat et que c'est le débat qui est au centre du livre. C'est comment est-ce qu'on approche l'autre, effectivement, et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autre, qu'est-ce qu'on peut en dire. Mais imaginez maintenant les débats hommes-femmes. Je vais recevoir, les éditions des femmes viennent de sortir un gros recueil sur MeToo, je vais recevoir ces gens. Qu'est-ce que ça voudrait dire me mettre à la place d'une femme? On sait bien que c'est mensonger. Et le premier texte que j'ai publié dans un fanzine, un périodique en 75, disait « Je suis un homme, une femme, un vieillard, un enfant, etc. » Et je le pensais sincèrement. Mais non, c'était il y a 45 ans ou 40 ans. Et je me rends bien compte que c'est une impasse, que c'est pas vrai. Que j'ai des positions, que je suis pas... l'autre et que donner à la possibilité à l'autre d'être l'autre demande que je sois moi. En même temps, je me rends bien compte que... Mais je ne peux pas m'identifier à une prostituée dans un camion nigériane.
Ça ne veut pas dire s'identifier.
Moi,
je ne le vois pas comme ça.
C'est pas mon corps. Alors, pour être plus simple,
oui,
c'est
moi
pas
plus.
Mon corps.
Moi non plus, même si je suis une femme, ce n'est pas mon corps, mais c'est un corps comme moi, comme vous, vivant, debout. C'est-à-dire qu'il y a quand même des passerelles.
Il y a des passerelles là-dedans, je pense. C'est ça. J'ai une vision sur les frotteurs dans le métro, par exemple, il suffit que je me souvienne de moi enfant.
Pour comprendre. Oui, bien sûr.
Il suffit que je pense à mon enfance et je comprends ce que c'est de subir une agression. C'est simple. Enfin, ça dépend de l'enfance qu'on a eue. Ça marche. Alors oui, il y a la question du nom. Hein. Elle va finir par dire non. C'est donc il y a... J'ai dit stop grâce à Marachi Uzoma, c'est pas ton chemin, c'est un non. Il y a aussi le travail sur le langage, comme elle a cette espèce de rapport animiste à la langue que je partage totalement et que je pense que la plupart des gens qui écrivent ou qui font des films ou de la musique, etc., partagent. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un rapport très affectif à des choses qui sont relativement abstraites.
Oui, absolument.
Et des sonorités, des choses comme ça. Oui. Donc ça, c'est très bien. Il y a un chapitre qui est absolument formidable sur les salons de coiffure. Parlons de ces salons de coiffure ou expliquer. On sait tous où ils sont, mais enfin...
Ils sont
très regroupés.
Ce ne sont pas que des salons de coiffure. Il y a aussi des commerces qui vendent des produits. Puisqu'il y a des produits pour éclaircir, des produits pour défriser, des produits pour lisser, des extensions de tresses, des extensions de cheveux, des couleurs, un jour, la narratrice et Grace vont ensemble, boulevard de Strasbourg et autour, et rue du Château d'Eau, etc., voir tout ça. D'ailleurs, dans le livre, il y a une liste de produits et de lieux qui est tout à fait réelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est... C'est une marche que j'ai faite réellement avec mon téléphone et mon truc qui enregistrait, mon téléphone qui enregistrait. Et je disais les mots en même temps que je les voyais en suivant le trajet. Et donc, j'ai respecté mon trajet, d'ailleurs, ça, personne ne le sait, ne le verra, mais enfin, c'est la réalité. Et les cheveux, oui, les cheveux, c'est quelque chose d'important partout sur la Terre, d'ailleurs. C'est pas que en Afrique ou en Afrique de l'Ouest. Mais c'est quand même... Il y a un des deux chapitres sur les chevelures qui commence par... dans les cheveux, il y a des messages, il y a des intentions, des messages connus ou inconnus qu'on... trimballe avec soi, voilà. Donc
ce qu'on lit dans votre livre, c'est que les cheveux sont le lieu de le rapport entre l'âme et le corps, le lieu de l'intégrité physique, le lieu de la sensualité. Enfin, c'est très loin de nous là. Justement, là, on a.
Alors ça, c'est très ancien en Afrique, ouais. Très ancien. Ça remonte à l'Égypte, très ancienne. Ça a plusieurs millénaires. Et il y a un savoir-faire en Afrique et notamment qui était peut-être. Je ne sais pas parce que je ne suis pas historienne ni anthropologue, mais je me suis documentée quand même beaucoup. Et ce savoir-faire de tresser, de faire des extensions, c'est très ancien. Et le soin aussi est lié à cette histoire, à ce savoir comme ça qui s'est diffusé, qui est présent avec des formes très différentes selon les pays d'Afrique, mais qui est présent un peu partout. Et il y a aussi la dimension presque scientifique, c'est-à-dire le fait que les cheveux sont différents, les cheveux sont physiquement différents, c'est ce qui explique leur volume. Et ça, je trouvais ça très beau, le moment où j'ai compris, et c'est en discutant avec un coiffeur que je l'ai compris, parce que quand on fait ses études de coiffure, ils apprennent que les textures de cheveux sont différentes, qu'il va falloir donc les coiffer différemment, et que les plus fragiles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est tous les cheveux qui sont très frisés, parce qu'ils ont une texture comme ça qui permet à l'air d'être entre chaque cheveu, ce qui fait le volume, mais ils sont beaucoup plus fragiles et il faut les hydrater. Et c'est un coiffeur qui m'a raconté ça. Et ce coiffeur, il a fait ses études avec notamment, il a des amis qui sont sénégalaises, elles sont pas nigérianes, ses amis, mais elles sont sénégalaises et ivoiriennes, de mémoire. Et il était en colocation avec plusieurs d'entre elles, et elles passaient leur temps à se coiffer les unes les autres, donc il les coiffait. Et donc, entre son cours théorique de coiffure, où on leur explique que les cheveux asiatiques sont comme ci, sont les plus résistants, les Européens assez aussi, et finalement, les cheveux à caractère, enfin, qui viennent d'Afrique, ils sont beaucoup plus fragiles. Et là, on comprend tout, c'est-à-dire, j'ai lu beaucoup de littérature nigériane pour écrire ce livre aussi. J'ai lu notamment Chimamanda Ngozi Adichie, qui parle beaucoup des cheveux aussi, à sa façon. Et là, ça a éclairé cette conversation, longue conversation avec un coiffeur, éclairé à la fois de façon théorique et pratique, parce qu'il a coiffé et il coiffe ses amis sénégalaises et ivoiriennes, ils se coiffent entre eux. Ça donnait, là c'est pareil, quoi, on est dans le réel et à la fois ça amène à l'écriture, parce que cette histoire de... Enfin, moi, tout de suite, le mot qui m'est venu, c'est vaporeux, comme ça. Et puis, ça devient beau. Enfin, oui, il y a une forme de beauté, comme ça, qu'on trouve. Et on se dit... Et là, c'est pareil, on est à l'os, si j'ose dire. C'est-à-dire que tous les débats d'appropriation culturelle, ou tout d'un coup, qu'on connaît d'ailleurs en France, où certains se demandent... Enfin, tout ça, c'est le chemin vers moins de discorde, enfin, d'une certaine façon. C'est-à-dire on se met à comprendre des choses sur le temps long et dans les espaces. Voilà, on n'est plus dans... toi, t'es de quelle communauté? Toi, t'es de quel pays? Enfin, il y a une... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ce n'est pas forcément très clair ce que je suis en train de dire.
J'ai compris en même temps, en revenant à cette... donc c'est connu mondialement, hein, le coin...
Oui, je sais.
Le boulevard de Strasbourg, c'est dit dans le livre. Et donc j'ai compris pourquoi ça méritait de faire allusion à Blanchot et à Duras, dans ce cas précis, parce que c'est plus un livre pop, en fait. Et s'il faut faire absolument une référence savante, on pourrait prendre une autre filiation qui serait de Joss et puis de Rabelais, et puis c'est sur la liste des salons de coiffure, hein. Perruque, l'atelier du glamour, mèche brésilienne, Daylight, Fair and White, But a Miracle African Pride, Deep Treat in Musk, Witness Air Mask, Extra Moisture, Détanglaire, Rétorative, Conditionné, Air Mayonnaise, Jojoba Oil, etc. Et donc on a un certain plaisir aussi, en fait, et c'est si on pense à ces camionnettes, alors on voit bien comment serait le roman, en tout cas moi, enfin ce livre traité par un auteur américain, il serait beaucoup plus sordide. Mais la camionnette, enfin, je pense au plus à un auteur masculin, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça brusquement d'un auteur féminin américain, mais donc je vois, il existe des gens qui écrivent aujourd'hui, soit sur des questions d'homosexualité, soit sur des questions de... Il y a un type qui s'appelle Volman, qui est très très connu, par exemple, qui a fait un roman sur une prostituée, et ce roman s'appelle peut-être Grace. Et c'est très sordide, en fait, il collectionne des poils peu bien et tout. Ouais. Mais on a cette même ambiance pop, on a cette ambiance de camionnette, de bois, de les vêtements aussi, hein, tout le maillot, le... Et alors il y a une dimension aussi dans le livre à propos de ça, c'est la dimension de l'écriture. Il y a un écrivain qui vient la voir et qui lui parle et dont elle dit du bien, et il y a une allusion à Madame Edouarda de Bataille. Et il y a la lecture, elle va lire des livres. Alors là, la grande différence aussi entre Grace et les autres, c'est qu'elle a fait un bout d'école un peu plus long que les autres, et donc elle a un bon rapport à la parole. Enfin, la parole, ça serait la collectivité, mais l'écriture, c'est sa personne à elle, c'est une capacité personnelle.
C'est une capacité qu'elle aime apprendre, c'est une des clés pour elle de sens.
C'est la clé du personnage, ouais. Et puis le plaisir à lire.
Et le rapport au livre, oui, à l'écriture et à la lecture et au fait de parler. Et la parole, au début, je cite un proverbe qui est tout absolument à fait vrai, qui est très important, qui est la parole est un art, c'est un proverbe Igbo. du Nigeria, que l'ethnie Yoruba partage aussi. Et ce qui était aussi assez troublant, c'est-à-dire de se retrouver avec ces femmes qui sont parfois très silencieuses parce qu'elles sont dans un pays dont elles ne connaissent pas la langue, le français, ou très peu. Et elles viennent d'un pays où la parole est un art, normalement.
Eh bien, Anne parlait du montage à propos de son film. Et là aussi, au centre du livre, il y a la parole, en fait. Hein. Tout passe toujours par la parole. Oui. Écoutez.
Très important.
C'est ce qu'on est en train de faire, arriver à faire parler les gens. Et puis, écoutez. Gilles, tu peux nous mettre un petit morceau de musique, s'il te plaît? Donc c'était Flavien Berger, M'a dit la nuit, l'album Contretemps. Nous sommes très contents de ce petit Flavien Berger, chanteur. Nous avons reçu l'album, maintenant on envoie des fichiers, c'est très très bien. Et nous reprenons donc avec Karine Miremont, Grâce l'Intrépide et Anteria Malévos, qui va passer au Saint-André-des-Arts tous les jours à 13h à partir de demain.
À partir de demain.
À
oui,
partir de demain. Donc, et qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Grâce l'Intrépide et sur Malévos? Qu'est-ce que vous voudriez ajouter?
Mais pour ma part, j'ai été frappée par ce que disait madame sur la forme, n'est-ce pas? C'est quand même ça qui nous titille, inventer, enfin tenter de chercher des manières de raconter autre, et avec d'autres moyens. Je veux dire, pour le cinéma, c'est criant, vu que maintenant les caméras sont plus performantes, et que là, sur mon film, il y a un caméraman et un preneur de son, et lors de mon premier film, il y avait 18 techniciens, et nous sommes plus libres comme ça. Donc ça fait repenser la notion même de cinéma, puisque à la différence de madame, moi je dépends aussi de beaucoup plus de l'argent et de la technique. Donc est-ce qu'on peut pas faire de façon autre du cinéma, avec comme au fond les enfants qui prennent un objet, un autre, pour se débrouiller comme ils peuvent, avec peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu financièrement?
Alors, je pense à ce qui vous relie peut-être, en tout cas, tu m'as parlé ce matin d'Alain Cavalier.
Oui.
Et il a une œuvre cinématographique absolument formidable. Oui. Et donc,
il a brisé.
Grèce, l'Intrépide s'inscrit tout à fait dans ce genre d'image. On prend un sujet sur lequel il existe des choses totalement lambda, bateau.
Mais enfin, bien.
Il y a des fictions sur les hôpitaux psychiatriques aussi, il y en a sûrement beaucoup, et il y en a de qualités différentes. On peut même imaginer des séries, enfin des séries à l'hôpital. Il y en a plein.
Oui.
Et donc, justement, Cavalier avait cette espèce de...
Oui, il a brisé.
De désir très fort de raconter des histoires dans une forme extrêmement inventive et minimaliste.
Mais complètement. Alors, vous avez dit le mot. Pour moi, j'ai essayé de faire... Enfin, c'est pas que j'ai essayé. J'ai dû faire un cinéma minimaliste. Et c'est ça le challenge. Jusqu'où peut-on aller trop loin avec peu de moyens pour narrer, madame parlait de la télévision, c'est vrai que pour ma part, la grosse tête dans l'écran qui parle, ou le joli personnage avec les cils bien faits pour jouer Juliette, je reviens à Juliette parce que c'est emblématique de Shakespeare, est-ce qu'on n'en a pas un petit peu assez? Et j'ai l'impression que le public est capable de façon plus subconsciente, voilà, c'est peut-être le mot, que le fil soit plus subconscient. On est beaucoup moins explicatif, par exemple, quand on revoit les films des années 30, on voit que maintenant, on n'a plus besoin de mâcher chaque scène de façon explicative ou trop près. Je voulais dire du théâtre, mais je me méfie du mot, parce que le théâtre ne l'est pas du tout en ce moment explicatif. Mais on est plus capable de sentir quelque chose qui vient de l'inconscient et qui fait fil.
Je ne sais pas. Alors, je pense que c'est malheureusement pas linéaire. Et,
voilà, ce n'est pas linéaire.
La grande littérature moderniste, par exemple, me manque beaucoup. Et je pense qu'elle est derrière nous. Et qu'on est. Enfin, c'est quand même assez régressif, en tout cas au niveau de l'écriture. L'écriture moyenne en ce moment.
Il y a des mouvements contradictoires, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement qui est du formatage. C'est-à-dire des formats, et c'est vrai dans l'image, dans le son, dans l'écriture. On fait des produits, c'est rangé dans des catégories, c'est labellisé ceci, cela, c'est vendu comme ça, donc on est dans le marketing.
Exactement.
Dans le voilà. Et puis il y a ceux qui cherchent des formes, et des formes, c'est pas des formats. Donc
la création.
Et dans les formes, il y a ce qu'on recherche parfois souvent, c'est ce que vous disiez il y a un instant, peut-être le dire autrement, le pouvoir d'évocation des mots, le pouvoir d'évocation des images, le pouvoir de... C'est des choses qui flottent dans un univers où tout est très normé. Ça fait du bien au lecteur, ça fait du bien à ceux qui regardent, je pense aussi.
Je pense qu'effectivement, l'éthique est dans l'esthétique. Et que c'est vraiment ce qui fait la force de Grèce, l'Intrépide, par exemple. C'est ce que je pense. C'est que c'est des situations difficiles. On peut se retrouver dans un tas de choses révoltantes à tous les niveaux. Que ça soit vers la violence, vers le sentimentalisme, vers la manipulation, tout ça. Et je n'ai pas d'autre éthique que mon esthétique. Et c'est, en plus, je la pratique. C'est-à-dire que c'est pas de la consommation, on paye sa tournée. Et donc sur la carte de couverture de votre livre, il y a marqué que vous vous occupiez d'une forêt dans les Vosges.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi, s'occuper d'une forêt?
Ouais, alors s'occuper d'une forêt, ça veut dire avoir la chance déjà. En fait, je depuis quelques années, j'ai arrêté de travailler normalement. Avant, je gagnais ma croûte. Maintenant, je la gagne plus parce qu'avec les livres, il faut en vendre beaucoup pour gagner sa croûte. Et c'est pas mon cas. Donc j'ai fait un deal avec mon homme qui lui gagne une autre croûte parce que sinon on n'y arriverait pas, et la chance qu'il a, c'est qu'il a une forêt que son père lui a laissée quand il est mort il y a très longtemps. Et comme moi j'ai plus de temps que mon homme, c'est moi qui m'occupe d'une partie des questions de la forêt qui sont plus des questions d'envie, parce qu'il y a une partie de la forêt qui est classée en réserve naturelle, zone Natura 2000, etc. C'est dans les Vosges. Et pas loin de la ligne de crête des Vosges, comme ça, qui fait une délimitation avec la Lorraine et l'Alsace. Et à cet endroit, il y a des arbres très anciens qui ont été préservés. Il y a une partie de la forêt qui est très peu exploitée. Et donc, comme moi, j'avais du temps, à un moment donné, je me suis énormément investie dans cette question-là, pour défendre ce territoire qui est régulièrement menacé par des projets d'implantation de ceci, d'urbanisation de cela, etc., etc. Y compris d'ailleurs de la part de certaines institutions publiques ou organismes publics qui sont censés, qui disent, qui affichent qu'ils font de la préservation de l'environnement, mais en fait ils font de l'instrumentalisation commerciale. Et comme ce bout de forêt, il n'est pas là pour rapporter de l'argent, il est là parce qu'il est là. Voilà. Moi, je me suis un peu emparée de ce sujet comme un, oui, comme un contrat avec mon homme, parce que lui, il n'a pas le temps. Donc moi, je me suis dit, OK, moi, je vais prendre un peu de temps. Ça me passionne parce que c'est un endroit où je marche beaucoup. Et puis, plus profondément, pour moi, ça a à voir avec le fait de lire et d'écrire la forêt. C'est complètement...
On pense à... mais dans le Jura, tous les papiers, toute la fourniture... mais là, si vous ne l'exploitez pas, c'est pas ça.
Alors, non,
c'est du bois... quand on roulait dans le Jura, on voyait le bois posé pour
qui
aller...
Qui est fait pour la cellulose. Pour la cellulose, non. Alors là, c'est pas du bois qui part en cellulose, c'est du bois, plutôt du bois de construction, parce que c'est des résineux qui sont destinés à la construction. Il y a du hêtre aussi d'altitude, mais qui est plutôt du bois de chauffage, du très bon bois de chauffage. Voilà. Non, c'est pas le rapport, mais ça peut être aussi de façon éloignée le rapport au papier, au fait de fabriquer du papier, mais c'est pas le cas de cette forêt. Non, c'est plus le rapport au paysage, aux endroits.
Mais c'est assez haut alors, c'est pas du feuillu?
Il y a un peu de feuillu. Mais parce qu'il y a des feuillus d'altitude, donc les hêtres. Mais sinon, il y a beaucoup de résineux qui sont exploités. Et c'est entre 600...
au milieu des sapins.
Entre 600 et 1200 mètres. Ah ben non, malheureusement, je vis une bonne partie du temps à Paris.
Mais là, c'est du sapin.
Mais là, c'est du sapin d'épicéa, du Douglas et des hêtres. Il y a quelques érables.
Le Douglas, c'est les sapins de Noël, là?
Non, oui, il y en a quelques-uns. Ouais. C'est des épicéas aussi qu'on voit ici. Et les douglas, c'est des résineux qui poussent très vite et qui sont assez costauds.
C'est pas
costauds.
Mon genre de forêt.
Mais
j'aime bien les pins méditerranéens, les trucs un peu tordus.
Ouais, je vois très bien. Mais moi, j'aime bien le sud aussi parce que j'ai vécu à Perpignan toute mon enfance et mon adolescence et je suis un peu méditerranéenne à cause de ça. Et voilà. Mais ça, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que la forêt dans laquelle je marche le plus souvent et dont je m'occupe, elle est dans les Vosges et voilà. Et il y a beaucoup d'animaux aussi.
C'est le côté
aussi.
Miyazaki, là, vous voyez
Oui, je vois très bien.
Le côté animiste, enfin, le côté écriture.
Mais complètement, quand je dis qu'il y a un rapport avec l'écriture et la lecture, c'est aussi un rapport à la solitude, en fait.
Bien sûr.
Voilà, et un rapport au fait...
Et c'est une solitude très habitée. C'est à partir du moment où on peut personnaliser une forêt, donc on voit ses mouvements, on peut... Enfin, c'est vraiment Miyazaki, on peut le mettre des...
Et puis un rapport aux animaux.
Il y a des arbres qui vont avoir une certaine... Enfin, pas des arbres, pas seulement
des arbres.
Des animaux,
connaît. Il y a des arbres
nuages,
qu'on connaît.
Il
y a des arbres qu'on connaît, oui, bien sûr. Il y a des endroits qu'on connaît, il y a des passages d'eau qu'on connaît, il y a des... Absolument.
Des chemins, le vent.
Le vent, on sait où les endroits où il va y avoir des feuilles qui vont faire du bruit. On sait les endroits où on va pouvoir marcher tranquille parce que c'est humide et qu'on fera pas de bruit. On sait qu'à tel endroit, on pourra peut-être voir tel animal, telle sorte d'animal. Alors, c'est une forêt vraiment particulière parce qu'il y a encore quelques grands étrangers. Il y a évidemment des chevreuils, des cerfs, des sangliers, des martres, des chouettes. Il y a deux, trois catégories de chouettes, dont des chouettes de Tengmalm. C'est complètement poétique au sens bon du terme, c'est-à-dire lyrique presque, oui, dans une forme. Quand on fait dans l'année du chat mon premier livre, à un moment, le chat de l'année du chat se perd, ce qui est une histoire vraie, se perd dans la forêt des Vosges pendant 2 mois et demi. On le perd, on pense qu'il a été mangé par un renard ou je sais pas quoi. Et je fais juste une énumération des animaux qui sont dans cette forêt. Et pour moi, juste l'énumération, comme l'énumération que vous faisiez tout à l'heure des produits boulevard de Strasbourg et rue du Château d'Eau, pour moi, c'est pareil, quoi. Martre, lynx, sanglier.
Pour revenir à la notion d'empathie, je pense qu'animisme c'est mieux. Mais un animisme, oui, parce qu'on peut regarder ensemble. Je reviens, l'empathie c'est quand même quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre.
Et dans animisme, moi, ce qui ma réserve simplement, c'est qu'il y a un côté religieux. Alors, je suis pas athée, mais je dis toujours que je suis agnostique. Moi, j'en sais rien. J'aimerais bien qu'il existe quelque chose parce que j'ai bien, bien peur de la mort, mais je sais pas comment m'en débrouiller. Je crois qu'il y a rien après, donc je dis que je suis agnostique. Donc, dans animisme, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu New Age religion?
Si, oui. Mais et puis, quand on est en Afrique, il y a la terreur aussi. C'est terrifiant parce que ça fait peur. Enfin, il y a tout le temps des monstres partout. Il y a des diables. Donc c'est vrai qu'avoir une route et sécuriser les endroits. Mais C'est une espèce de goût à la vie. C'est un peu comme Nietzsche avec les Grecs, là. C'est une invention, mais c'est juste pour donner un peu de tonicité et de goût à la vie contre cette espèce d'été noir, quoi. Ce sont les grands monothéismes.
Je suis d'accord.
C'est, quand c'est juste remettre au premier degré ce qui est vécu au 14e degré tout le temps et essayer de sortir de la faute, du péché originel.
Oui.
Et l'écologie est notre futur. Donc,
si c'est dans ce rapport-là, je comprends.
Oui, c'est une espèce de goût à des choses. Un légume bien cuit dans une assiette avec du riz.
C'est formidable, on est d'accord.
Et avec un rite autour, un truc. Mais oui, New Age. Mais on n'y arrive pas, on n'est pas. On n'a jamais réussi à être aussi crétin que ces Californiens, mais ça serait formidable, mais on est beaucoup trop. Compliqué, érudit, européen, trop coupeur de cheveux en 14.
Ben, je sais pas, parce que justement, moi, quand je marche
attention,
dans la forêt,
c'est fini. C'est fini. Il y a quelqu'un qui vient après nous. On peut avoir un générique de fin, s'il te plaît. Mais c'était formidable.
Il faudra qu'on continue la conversation, là, parce que sur l'animisme et tout.
Je vais vous envoyer cet après-midi, là. Vous verrez maman. Déjà, le dossier de presse.
Il parle, ouais, d'accord.
Il y a eu 5 ou 6 heures. Bonjour, je vois la dame Toubiana qui rentre dans le studio. L'émission est finie. L'émission suivante est formidable aussi. On m'en dit toujours beaucoup de bien. Et elle traite aussi, elle, de sujets écologiques, de nature, d'intelligence du monde, un tas de choses que Manouchka va vous raconter. Nous sommes sur Aligre FM 93.1. C'est la fin de La Vie est un roman. Merci à toi, Gilles.